Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Merci d'être encore fidèle à Mélomanie et bienvenue sur Radio Présence à l'écoute d'un nouveau numéro du magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Le joli mois de mai est enfin arrivé, il n'est pas toujours joli en ce moment, mais tant pis. Avec lui, c'est aussi la période où vont s'enchaîner les ponts et les week-ends prolongés. Et les musiciens, eux, ne font pas relâche et les événements musicaux continuent d'occuper l'agenda des semaines qui viennent. L'occasion pour les mélomanes de profiter des belles soirées de mai pour aller au concert. Nous allons justement nous plonger dans cet agenda avec les mélomaniens que j'ai réunis autour de moi aujourd'hui. Toujours fidèle au rendez-vous, je suis heureux d'accueillir encore une fois Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi. À ses côtés, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour Culture 31 et les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Bienvenue aussi à vous trois et merci d'avoir répondu à l'invitation de Mélomanie en votre compagnie éclairée. Nous allons immédiatement revenir sur l'actualité musicale de la semaine dernière pour la première partie de cette émission.
Mélomanie. Retour arrière.
C'est une série de concerts qui semble avoir déjà trouvé son public et ses fidèles. Le cycle « Une heure » avec Jean-François Zigel proposé par l'Orchestre National du Capitole à la Halograin a connu son dernier épisode de la saison samedi dernier. Cette fois-ci, Jean-François Zigel, à la fois pianiste, improvisateur et animateur de la soirée, avait conçu un programme intitulé « Voyage en Espagne ». Il y avait beaucoup d'œuvres et de compositeurs au menu, des Espagnols bien sûr, mais surtout des Français inspirés par l'Espagne et sa musique. Anne-Marie Chouchan, vous êtes vous aussi devenue une fidèle de ce rendez-vous et visiblement, vous appréciez la façon dont Zigel mène ses concerts, la manière avec laquelle il bâtit et présente ses programmes.
Oui, je crois que cette nouvelle série du Capitole, dont c'était la première saison, a déjà trouvé un public très nombreux, puisque c'était quasiment plein cette fois-ci également, et que donc Zigel est arrivé à varier les façons de parler de la musique, d'en parler avec des formations différentes de l'Orchestre du Capitole, puisque le premier des concerts, c'était de la musique de chambre, le second, une petite formation, et là, c'était l'Orchestre du Capitole au grand complet. Et Jean-François Zigel, donc, a proposé un voyage en Espagne, avec des œuvres très très connues, puisqu'il y avait Espagna de Chabrier, et puis il y avait aussi des extraits de Carmen, il y avait des œuvres de Ravel, de Falla, bien sûr,
Albéniz
et Stravinsky également.
C'était l'intrus.
Et Zigel a lui-même écrit une petite œuvre qui s'appelle Malagueñas. Donc lui-même a créé quelque chose. Et ça s'est terminé par l'Alborada del Gracioso de Ravel. En même temps, donc, il est passé lui-même, toujours comme il sait le faire, du piano au Celesta. Il a fait connaître aux gens le Celesta, qui est un instrument aussi qui fait partie depuis la fin du 19e siècle des instruments de l'orchestre. Et il a montré la différence avec le piano, la sonorité. En même temps, il a bien évoqué cette Espagne sublimée par ses compositeurs français, chacun avec des rythmes qui sont dans l'esprit de chaque compositeur et en même temps fidèle à une Espagne assez rêvée, il faut le reconnaître. Donc c'était un concert qui a vraiment trouvé son public. Jean-François Zigel a annoncé à la fin du concert qu'il y aurait une nouvelle saison en 2018-2019, donc avec d'autres thèmes, parce qu'à chaque fois il doit trouver des nouveaux thèmes avec la complicité de l'orchestre, les disponibilités de l'orchestre. Mais là, c'était très réussi. En même temps, lui-même a fait une improvisation sur L'amour est enfant de Bohème, de Carmen. Donc pour les gens, c'était là, cette fois-ci, vraiment un pays connu au niveau musical. Parce que finalement, Espagna de Chabrier, c'est des choses que l'on connaît.
Sans savoir forcément que c'est Chabrier, mais
voilà,
en fait, les gens connaissent.
Ne parlons pas de Carmen. Donc les danses de Manuel de Falla aussi. C'est vrai que c'était un concert populaire dans le meilleur sens du terme et qui là a satisfait, je crois, l'ensemble du public. Puisque à cette heure-là, à 18h, c'est un public familial, des anciens, des enfants, ça suppose que ça trouve une adhésion
de toutes les générations.
Mais je crois aussi que ça séduit beaucoup les gens à cause de l'heure, puisqu'il y a aussi d'autres concerts de l'orchestre qui s'appellent Happy Hour, qui aussi sont à 18h le samedi, et il y a des gens qui n'aiment pas sortir le soir et qui sortent là une heure avec. À 7h, on est dehors, donc c'est une façon, on pourrait dire, d'écouter, même de consommer la musique différente. Et je crois que là, c'est une formule qui vraiment a trouvé son public.
Et qui va être reconduite. Alors c'était plein, je crois que c'était plein, tous les trois.
À, les trois. Là, cette fois-ci, particulièrement, parce que j'ai vu qu'il restait que quelques places derrière l'orchestre, un petit peu, mais il n'en restait pas beaucoup. Et là, c'était vraiment complet.
Alors, vous parliez de toutes les œuvres qui ont été jouées durant ce concert, une heure avec Jean-François Zigel. Nous allons en écouter une, vous l'avez citée, c'est Espagna d'Emmanuel Chabrier, un titre vraiment de circonstance pour ce concert que Jean-François Zigel avait appelé Voyage en Espagne. Espagna, un extrait de la pièce orchestrale d'Emmanuel Chabrier, qui a donc été joué par les musiciens de l'Orchestre National du Capitole lors du dernier rendez-vous du cycle Une heure avec Jean-François Zigel. C'était samedi dernier à la Halle aux Grains, un cycle qui sera donc repris la saison prochaine. Lundi, c'était aussi le dernier rendez-vous de la saison 2017-2018 des Clés de Saint-Pierre, à Saint-Pierre-des-Cuisines bien sûr. Là, il y avait uniquement des compositeurs de notre pays au programme, un concert intitulé « Élégance française ». 6 musiciens étaient sur le plateau pour l'interpréter. Serge Chosy et Robert Pénavert étaient dans le public pour assister à cette célébration de la belle musique française de la fin du 19e et de la première moitié du 20e siècle. Alors messieurs, racontez-nous un peu cette ultime soirée de la saison des Clés 2017-2018.
Eh bien, comme à l'habitude, ce sont des soirées formidables, hein, où il y a une communion entre le public et les musiciens qui est irremplaçable. Hein. Et puis, avec des combinaisons instrumentales qu'on ne trouve que là. Hein. Là, en l'occurrence, il y avait un piano, celui de Philippe Monferrand, excellent pianiste, comme on le sait, et un quintette de cuivre, d'instruments à vent. Il y avait un cuivre, c'était en fait Thibaut Hoquet au corps, et ensuite des bois, avec François Laurent à la flûte, Chi Weng Cheng au bois, que l'on connaît bien, hein, au bois solo de l'orchestre, Laurence Perry, clarinette, et Mylène Poulard au basson, donc vraiment une palette de musiciens comme on les aime, puisqu'on connaît la qualité de ce que l'on appelle quelquefois la petite harmonie de l'orchestre, qui est vraiment excellente, avec des couleurs, des spécificités, toujours magnifiques.
Et puis je me rends compte, il y avait aussi toutes les générations de l'orchestre, on parle de public où il y a toutes les générations,
exactement.
Il y avait un peu toutes les générations de l'orchestre.
Voilà, exactement, oui, c'était vraiment excellent, avec une palette d'œuvres. Il y avait quand même 7 œuvres jouées, 7 pièces, courtes évidemment, pour remplir la soirée, mais c'était quand même copieux. Hein. Alors, des œuvres qui étaient des transcriptions pour instruments à vent avec ou sans piano, et puis des œuvres originales. Alors, la première partie combinait les deux, et elle s'est ouverte avec le tombeau de Couperin, que l'on connaît dans sa version le plus souvent orchestrale
oui.
Bien que ce soit à l'origine pour piano, mais vraiment, ça s'adapte parfaitement bien aux instruments avant.
Exactement,
vraiment,
oui,
avec notamment ce prélude tout en badinage. C'est à la fois frivole, élégant et léger. Et, vraiment, une très belle version de ce tombeau de Couperin, avec uniquement là, évidemment, les vents. Et puis, il y avait également, uniquement avec les vents, la petite suite de Debussy, œuvre magnifique aussi, également transcrite ici pour instrument vent, et avec trois mouvements seulement, hein, notamment la berceuse, l'espèce de berceuse que représente en bateau, et puis le cortège, et puis le ballet final, vif, effervescent. Ces deux œuvres de Ravel et Debussy, c'était donc des transcriptions pour pointet avant. Ensuite, il y avait deux œuvres à effectif plus réduit, avec notamment de Saint-Saëns la romance pour cor et piano. Alors, il a écrit deux romances, c'était l'opus 36, hein, qui est probablement la plus belle. Hein. Une œuvre extrêmement souple, oui, romantique, très avec des phrases magnifiques. Et là, s'est exercé la grande sensibilité, le grand talent de Thibaut Hocquet.
Et le son magnifique.
Un son d'une rondeur extraordinaire. Vraiment, c'était un grand moment que cette romance, très courte, mais tellement intense. Et puis, le fameux trio de Poulenc, pour hautbois, basson et piano. Alors ça, c'est du Poulenc pur jus, hein, avec cet humour, ce lyrisme et cet esprit typiquement français. Et puis toute la deuxième partie était constituée d'œuvres originales pour instruments avant et piano, avec une découverte. C'était L'heure du berger, cette pièce de Jean Français. Jean Français est très rarement joué. Et...
Sauf au clé, c'est au clé de Saint-Pierre qu'on entend Jean Français.
Exactement, exactement.
Il y avait déjà eu une œuvre qui avait été jouée, je ne sais plus quand, il y a deux ou trois ans, je ne sais plus à quelle occasion. Donc il n'y a vraiment que là qu'on a entendu Jean Français.
Ah oui, 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 oui. Et alors vraiment une œuvre originale, hein, une œuvre amusante, qui est une espèce d'œuvre d'apéritif, comme l'a dit François Laurent, qui était le présentateur de la soirée. Et donc avec trois mouvements, rien que les titres des mouvements, ça vous indique quel est le style. Hein. Le premier mouvement, ce sont les vieux beaux. Le deuxième mouvement, Pin-up Girls. Et le troisième mouvement, les petits nerveux. Vous voyez un peu.
Alors, bon, on peut imaginer bien des choses.
Il y a une agitation tout à fait réjouissante. Et puis, il y avait une œuvre à effectif réduit aussi, de nouveau de Saint-Saëns, la tarentelle pour flûte, clarinette et piano. Tarentelle dont François Laurent nous a rappelé que la tarentelle est une danse du sud de l'Italie qui était supposée soigner ceux qui étaient piqués par la tarentule, d'où son nom. Donc, vous voyez, on a appris beaucoup de choses.
On reconnaît bien là la culture de François Laurent.
Ah oui, tout à fait.
Cela dit, il n'a pas validé médicalement.
Non, il a dit non. Que...
Il n'a pas testé.
Non, il n'a pas validé. Il a pris des précautions oratoires.
Oui, raison. Oui. Il a dit, c'est la tradition, voilà ce qu'on dit. Mais bon, effectivement. Tout cela s'est terminé avec le sextuor de Francis Poulenc. Alors là aussi, comme pour l'œuvre de Jean Français, tous les musiciens étaient réunis, piano et instruments avant. Et ce sextuor est magnifique. Alors, il est plus tardif que le trio qu'ils avaient donné en première partie, puisqu'il date de 1940 à peu près, avec là aussi trois mouvements vraiment du grand Poulenc, quoi. Alerte, avec des courses, poursuites, avec aussi une certaine douceur dans le mouvement central en particulier. Donc, vraiment une soirée très réjouissante et dont il faut féliciter la présentation de François Laurent.
Oui, je l'ai
évoqué à plusieurs reprises. Mais vraiment, il a fait ça avec un esprit, un humour tout à fait délicieux. Donc, c'était une très, très belle soirée.
C'est un grand musicien. Il est très bon aussi, effectivement, dans l'exercice qui consiste à présenter des œuvres. Robert, peut-être un mot sur cette soirée que vous avez vécue avec Serge.
Difficile de passer après Maître Chosy, n'est-ce pas, sur l'analyse de tel spectacle.
Vous êtes trop modeste.
Très, très, très humblement. Je veux dire qu'effectivement, comme je pense tout le monde, était ravi de retrouver François Laurent, que nous n'avions pas entendu comme ça dans cette formation chambriste depuis
quelques années,
voilà. Et on a retrouvé ce souffle inépuisable, cette vivacité dans les traits, cette virtuosité. Je voudrais également, comme toi, saluer ce jeune oboïste du Capitole, l'Hongkongais Chi Yuan Sheng, rappeler simplement qu'il a 26 ans, hein.
Oui, très
et qui a vraiment une maîtrise de son instrument, mais qui est absolument époustouflante, avec des tenues, des phrasés extrêmement longs, très virtuoses. C'est une véritable voix. Le hautbois, lorsque c'est joué comme ça, après Laurence Perry à la clarinette également, elle a eu un morceau, une cadence en soliste, pratiquement.
Des arpèges incroyables.
Des arpèges, mais c'était
dans vertigineux. La pièce de Jean Français.
On l'a vu plusieurs fois cette saison, entendu plusieurs fois au Clé de Saint-Pierre, voilà. Laurence Perry.
Alors, Mylène Poulard au basson, alors c'est marrant parce que quasiment l'instrument est aussi grand qu'elle, quoi.
Oui.
Mais elle le maîtrise, mais il faut voir comment.
Et remarquons que le pupitre de basson de l'Orchestre du Capitole est presque exclusivement, pas tout à fait, mais presque exclusivement féminin.
Oui.
Ouais, c'est donc.
Et de très jeunes femmes en plus.
Et
voilà, on se demande comment, parce que j'imagine, il faut énormément de souffle pour.
C'est de la technique.
Un instrument pareil. Et elle arrive à tenir, même dans les graves les plus profonds, elle arrive à faire vibrer son instrument. Et c'est génial. Thibaut Hoquet, bon, on ne le présente plus, Serge a dit tout ce qu'il fallait dire, je ne peux guère qu'adhérer évidemment, hein. C'est un des grands virtuoses, une des étoiles de l'Orchestre du Capitole, très clairement. Et Philippe Monferrand, qui est toujours aussi précis, et précieux dans ce genre d'exercice, et qui s'est donné un ton, qui s'est donné un style également, et voilà, et moi je tenais également à souligner sa prestation.
Tout à fait, il faut préciser que Philippe Monferrand est un accompagnateur extraordinaire, mais beaucoup plus que ça. Récemment, il était quand même le soliste du concerto pour piano de Grieg avec l'orchestre L'Anharmonie, et c'était magnifique, magnifique.
Oui, Anne-Marie.
Je voulais simplement demander s'ils avaient déjà communiqué la prochaine saison.
Oui, alors la prochaine saison est déjà connue. Elle a été précisée par le président de l'association des Clés de Saint-Pierre, Henri Simoneau. Et donc, il y a de beaux programmes prévus pour l'année prochaine. Hein. Alors, vraiment, je crois qu'on en reparlera.
Oui, bien sûr, on en parlera prochainement. On va l'annoncer peut-être à l'occasion du retour de Serge Krzyzewski dans cette émission, puisqu'il est membre des Clés de Saint-Pierre. Elle n'est pas encore disponible sur le site des Clés, en tout cas, quand j'ai regardé hier. Il n'y était pas, mais je pense que ça va être le cas incessamment sous peu. Le sextoire pour piano et quintette avant de Francis Poulenc était un des deux morceaux du programme qui réunissait les six musiciens. Un morceau original, celui-ci, c'était pas une transcription. Il a été écrit directement pour cette formation. Je vous propose d'en écouter un extrait. Il s'agit du deuxième mouvement, Divertissement Andantino. Divertissement Andantino, le deuxième mouvement du sextoir pour piano et quintette avant de Francis Poulenc, l'une des nombreuses pièces interprétées par les musiciens des Clés de Saint-Pierre lundi lors du dernier concert de la saison. Notez donc que le programme de la saison 18-19 a été dévoilé. Il devrait être bientôt disponible sur le site www.lesclésdesaintpierre.org. Nous vous en reparlerons prochainement dans cette émission. Et puis Robert, vous vouliez revenir sur la projection de Cendrillon, l'opéra de Jules Massenet en direct du Met de New York samedi dernier dans les cinémas Gaumont, ceux de la Belge et de Toulouse Wilson en particulier. Nous l'avions annoncé et vous l'aviez présenté lors du dernier numéro de Mélomanie. Vous avez assisté à la projection samedi et comme beaucoup d'autres personnes présentes, je crois que vous avez passé un très bon moment.
Alors oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Vraiment, malgré cette période de vacances, enfin, malgré le temps qui n'était pas extraordinaire, les gens se sont déplacés entre le Wilson et la Belge. Je pense qu'il y avait plus de 700 personnes qui ont assisté à cette retransmission. Et je peux vous dire que tout le monde applaudissait à la fin. C'était la dernière retransmission de la saison. Et d'une œuvre, effectivement, qui n'est pas très, très souvent donnée, puisque la dernière fois à Toulouse, comme je le disais la semaine dernière, c'était en 1993. Alors cela dit, nous n'avons pas à rougir, puisque c'était la création au Met. Le Met ne l'avait jamais donné, donc Toulouse l'a donné bien bien avant le Met. Voilà. Là, je ne vais pas revenir sur l'œuvre puisque je l'ai évoqué la dernière fois. Alors simplement pour l'interprétation. Évidemment, elle ne nous a pas déçus, mais alors pas du tout. Josie Donato, qui a fait du rôle Cendrillon, elle chante d'ailleurs les deux rôles. Hein. Elle fait la Cenerentola de Rossini et la Lucette, puisque c'est le nom du personnage. Ça fait sourire, je ne sais pas pourquoi. La Lucette, qui est le nom de Cendrillon, la Cendrillon de Massenet, elle chante les deux rôles, mais c'est surtout la Cenerentola qu'elle chante. Et c'est dommage, parce que sa Cendrillon de Massenet est superbe d'émotion, de phrasé, de français également. Alors, est-ce que c'est parce qu'on connaît le texte, mais je ne sais pas, mais enfin, on comprend tout ce qu'elle dit. Et c'est formidable, là, le prince charmant d'Alice Coot, qui est un mezzo également. Bon, là, effectivement, c'est pas que je vais lui faire forcément des réserves, mais moi, si j'avais eu en main le régisseur ou le caméraman qui s'amusait à faire quasiment des examens ORL au moment où les chanteurs sont plein cadre, je pense que c'est pas très, très chrétien de faire des choses pareilles. Je pense qu'à certains moments, il faut prendre un peu de recul par rapport à l'image, parce que c'est pas assez travaillé, très clairement. Bon, Alice Coot, eh bien, ouais, elle aussi, elle a fait du prince charmant un de ses rôles prédilection, un rôle évidemment de travestie. Stéphanie Blight, qui est Madame de l'Altière, un rôle qui n'existe pas dans la Cenerentola de Rossini. Alors elle en fait, c'est mal l'expression, mais elle en fait des caisses, mais c'est ce qu'il faut faire. En plus, Laurent Pelli l'a affublé de costumes. Enfin,
je pense qu'il a dû la pousser, en fait.
Alors, il a poussé, je peux vous dire que dès son entrée en scène, avant qu'elle commence à chanter, le public applaudissait tellement. Elle était formidablement caricaturée. Et en plus, il ne faut pas oublier que Stéphanie Blight, alors, pour le coup, c'est un vrai mezzo contralto, qui chante de très, très grands rôles, wagnérien, etc. Et je peux vous dire qu'elle a vite fait d'imposer sa voix sur la scène. La fée de Kathleen Kim, qui est une soprano sud-coréenne. Alors elle fait ce qu'elle veut de ce rôle qui est absolument infernal. Je sais pas, il me semble que Nathalie Dessay l'a eu chanté, mais je n'en suis pas très très sûr. Mais ça ne m'étonnerait pas, parce qu'effectivement cela fait appel exactement aux mêmes qualités. Oui. C'est-à-dire avec une virtuosité dans les aigus stratosphériques, des sons filés sur des contremis, mais qui viennent d'une autre planète. Et puis elle est un personnage, il faut dire, que la mise en scène de Laurent Pelli, c'est un conte auquel on peut convier les plus petits, mais enfin à partir de 10-12 ans, parce que ça va leur rappeler immédiatement le conte de Perrault. À mon sens, c'est une belle introduction. Il y a des choses magiques, des chevaux magiques, un danse magique. Il y a la fée qui est magique, qui fait transformer les...
C'est vraiment le monde du merveilleux.
C'est le monde du conte à l'état pur. Et Laurent Pelli fait ça à merveille. Voilà.
Il est vraiment dans son élément.
J'ai pas toujours été d'accord avec lui sur certaines de ses options, dans des opéras plus sérieux, mais là,
non,
vraiment...
Là, c'est pour lui.
C'est merveilleux. Après, un petit mot sur Laurent Naori, qui fait un Pandolfe très émouvant, et la direction de Bertrand de Billy, qui lui aussi est un habitué de cet opéra. Il est très attentif aux chanteurs, parce qu'il connaît très bien les chanteurs, et il les a aidés parfois dans des passages extrêmement délicats à négocier, et on sentait qu'il était là en permanence, non pas contre eux, mais à côté d'eux. Et ça fait plaisir, évidemment. Alors, c'est un opéra dans lequel on retrouve Manon, on retrouve Werther, il y a des ambiances, il y a même des mélodies qui parfois rappelle ces deux opéras qui sont antérieurs, évidemment. Ça a été accueilli par des acclamations et des ovations et des applaudissements. Les gens étaient ravis, ravis et tristes, puisque c'était la dernière retransmission de l'année.
On va parler dans quelques instants de la prochaine saison du Met qui sera retransmise, en tout cas la partie qui sera retransmise dans les Gaumont. On arrive au terme de cette première partie d'émission. Il est temps de faire une pause, mais restez bien avec nous. Nous revenons dans une minute pour la seconde partie et l'agenda de la semaine à venir. A tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique ? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
Seconde partie de Mélomanie avec les invités de ce numéro, Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour Culture 31 et les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi.
Mélomanie, l'agenda.
Et je viens d'en parler, puisque nous avons terminé la première partie d'émission avec le dernier opéra projeté en direct du Met, dans les cinémas Gaumont-Labège et Toulouse-Wilson. Nous allons poursuivre dans le même registre, puisque le programme de la saison 18-19 est déjà connu. Vous pouvez le consulter et vous abonner sur le site www.cinemagaumontpathé.com pour vous en donner envie et vous mettre l'eau à la bouche. Robert Pénavert va nous faire une petite présentation de cette prochaine saison, qui s'annonce tout aussi alléchante que celle qui vient de se terminer. En tout cas, sur le papier, je ne crois pas tromper l'auditeur sur la marchandise en disant ça. Et Robert, ça commence avec Aïda de Verdi le samedi 6 octobre.
Exactement. Et alors dire d'abord d'entrée que c'est une saison, lorsque j'en ai eu connaissance il y a quelques mois, qui m'a laissé littéralement assis par terre, parce qu'elle est merveilleuse. Enfin. Et alors ce n'est qu'une petite partie de la saison du Met.
Oui, ça c'est ce qui est projeté dans les Gaumont. Il y a quand même 10 projections.
Oui, il y a 10 projections, mais il y a bien d'autres productions qui sont données au Métropolitain. Alors en fait, la sélection, j'ignore qui sélectionne ces titres, mais il n'empêche que c'est assez malin, parce qu'en même temps, il donne envie avec des titres très connus, nous allons y venir, puis avec des chefs-d'œuvre qui ne sont pas très souvent donnés, c'est bien aussi, et puis il y a toujours un clin d'œil, si l'on peut dire, à une création mondiale. Qui retransmettent dans le monde entier quand même une création mondiale, c'est parfois un peu difficile à aborder, hein. Donc c'est une saison merveilleuse. Alors, la revue de détail commence, comme disait Eric, avec Aïda. C'est pas une nouvelle production, hein. C'est la production de Sonia Frizel, qui date pas des Pharaons, mais enfin, non, juste après, et qui nous remet effectivement dans l'ambiance d'Aïda, telle qu'Aïda est donnée aux arènes Vérone. Les amateurs comprendront. Donc, ça veut dire qu'il y a des défilés partout, il y a des temples en trompe-l'œil. Mais en même temps, c'est Aïda telle qu'à mon avis, lors de la création au Caire, ça devait ressembler à ça. Et pourquoi pas? Alors, les Américains ne veulent absolument pas que cette production disparaisse de l'affiche. Donc, il en va de la survie des directeurs du Métropolitain. Mais alors évidemment, quand on redonne comme ça des productions pour la centième fois, il faut les agrémenter de stars. Et les stars aujourd'hui annoncées sont, alors le titre, la soprano austro-russe Anna Netrebko. Voilà, merci, qui a déjà ce rôle à son répertoire. Hein. La mezzo-géorgienne Anita Rakhvelivili, qui est la plus grande, à mon sens, amnériste de l'heure. Et elle est absolument merveilleuse dans ce rôle. Et puis, c'est un ténor dramatique letton qui s'appelle Alexander Antonenko, qui, à mon avis, devrait faire un très, très beau Radames. Bien sûr, vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de voix italiennes. Bon, ben voilà, on va faire avec. Mais de toute façon, tout ça sont de très, très grands artistes. Ce sera suivi par alors, quelque chose, justement, là, on rentre dans les chefs-d'œuvre qui sont peu donnés, Samson et Dalila. Y compris en France, sauf la production qui en a été faite il y a quelques années à l'Opéra de Paris, d'ailleurs, avec Anita Rakhvelivili et Antonenko. Et c'était une production, alors la production, je ne m'étendrai pas dessus, c'est pas le sujet, mais par contre, les deux artistes principaux, Dalila et Samson, étaient merveilleux. En fait, Samson et Dalila va nous mettre en présence d'un couple quasiment hollywoodien, puisque c'est rien d'autre que une mezzo-lettone qu'on adore, qu'on aime beaucoup, qui est Elina Garanča. Et franchement, vous savez, Dalila, dans l'Ancien Testament, elle passe pour être une très belle femme, puisqu'elle a séduit ce pauvre Samson. Et franchement, je ne vois pas qui aujourd'hui peut affronter visuellement une diva telle que Elina Garanča. Et vocalement, j'imagine, cela dit, elle va avoir affronté le souvenir quand même vocal d'Anita Rakhvelivili. Et puis son Dalila, c'est rien d'autre, son Samson, c'est rien d'autre que Roberto Alagna. Ça, je me demande, c'est pas une prise de rôle, non, mais il n'a pas dû le faire très très souvent, ça. Hein.
Il l'a annoncé, je crois qu'il doit le faire, qu'il doit débuter à Vienne.
dans voilà. ce rôle.
À l'Opéra de Vienne, l'Opéra c'est de annoncé Vienne. Récemment.
Donc c'est oui. bien une prise
Et
de
c'est
rôle,
vraiment une prise de rôle.
C'est une prise de rôle
c'est
pour lui.
Hein. Ah ben, quand est-ce qu'il le fait à Vienne?
Je ne me souviens plus. Lui-même l'a annoncé récemment sur plusieurs sites. Je n'ai pas vérifié la date, mais c'est, je crois, prochainement, ou c'est quelque chose qui est à l'ordre du jour. Donc je pense que peut-être c'est avant oui. New York, alors.
C'est peut-être avant New York, oui, effectivement. Oui. Mais Raymond Dufaux, l'ancien patron des Corrigis d'Orange, l'avait convaincu de faire ça à Orange, et il avait reculé, disant qu'il n'était pas prêt. Donc voilà, mais maintenant, a priori, il est prêt, puisqu'il est annoncé à Vienne, il est annoncé au Métropolitain. Et ça, pour le coup, c'est une nouvelle production d'un Serbe qui s'appelle Darko Trenjak, que je n'ai pas le plaisir de connaître, mais bon, j'imagine qu'au Métropolitain Opéra, ça doit être quelque chose de très très regardable. Et puis ensuite, alors, encore une œuvre qui n'est pas très souvent donnée, c'est La Fanciulla dell'Ouest.
La fille du Far West.
Voilà, là, de Puccini. Cette œuvre que Puccini a écrit, a imaginé pendant son voyage aux États-Unis, où il avait récolté des thèmes indiens, qu'il a repris d'ailleurs dans son opéra. Et quand on parle de Fanciulla dell'Ouest, on pense aux interprètes avant toute chose. Et là, nous avons dans le rôle du brigand qui va être sauvé de la corde et de la potence par sa bien-aimée, mais rien moins que Jonas Kaufmann. Alors, tout le monde espère qu'il sera présent. Bien sûr, mais il a aujourd'hui, c'est un rôle très baritonnant, et il a la voix pour chanter ce rôle-là. C'est un ténor dramatique.
Oui, dramatique.
Le rôle Dick Johnson, donc, il en a le physique en plus.
Oui.
Il a tout pour lui, pour faire un Johnson absolument extraordinaire. Et à ses côtés, c'est une soprano néerlandaise qui s'appelle Eva Maria Westbrook, qui elle est plus habituée au répertoire wagnérien, mais il faut dire que d'abord l'orchestration est très, très présente, et puis il y a certains passages dont le final lorsqu'elle arrive à cheval, bien évidemment, parce qu'elle a compris qu'on allait pendre son bien-aimé, parce qu'évidemment la mezzo, là la soprano est amoureuse du ténor et vice-versa, et lorsqu'elle a compris qu'il allait être lynché, elle arrive à cheval, et puis du fin fond de la pampa, elle crie son nom un peu comme Isolde qui arrive à la fin de Tristan, on retrouve tout à fait les mêmes accents. Donc, effectivement, il faut une voix très ample et en même temps la partie de poker, parce qu'il y a de tout dans cet opéra. C'est un vrai western. Il y a des bandits, il y a un shérif, il y a un saloon. Il y a des Indiens. C'est un vrai western. Et c'est Zeljko Lucic qui sera évidemment l'empêcheur de tourner en rond, qui sera le vilain shérif. Enfin, je ne vous dis pas comment ça se finira après, évidemment, moult bagarres dignes des meilleurs westerns. Voilà. Alors, je préviens nos auditeurs, depuis que la saison est connue, tout le monde se jette sur l'œuvre. Alors, peut-être pas sur l'œuvre, non, je me trompe, mais certainement sur Kaufmann. Voilà. Alors, la suite, c'est là que le public va être amené à faire un petit effort. C'est un opéra qui a été créé fin 2017 à l'English National Opera à Londres, qui est marni d'un compositeur qui s'appelle Nico Mouly, et qui évidemment s'est fortement inspiré du film éponyme d'Hitchcock, qu'il a tourné en 1964.
Avec Sean Connery et Tippi Hedren.
Pas de printemps.
En français, pas de printemps pour Marnie.
Pas de printemps pour Marnie. Voilà. La mise en scène est de Michael Meyer, c'est celle évidemment de l'English National Opera. Et lui a transposé l'action au 21e siècle. Voilà. Alors ça, moi, je ne connais pas très clairement, mais je suis très impatient de la connaître.
On connaît le film, on se demande ce que ça peut donner sur scène.
Voilà. Alors, autant le dire, ce que je sais, c'est très collé au film. Les personnages, tout. Pour faire baisser la pression, suivant la Traviata de Verdi, dans une nouvelle production. Mais alors, j'en ai vu les photos, mais c'est absolument flamboyant. Et elle est signée également de Michael Meyer, celui qui fait Marnie. Et elle sera dirigée, alors ça, c'était pas prévu, pas pour les raisons que chacun sait. C'est le chef d'orchestre Yannick Nézet-Séguin qui a été obligé de remplacer le calendrier James Levine, puisque même James Levine a été blacklisté de tous les films de toutes les retransmissions du Metropolitan qui étaient diffusées ou en replay, etc. Bon, il y a des choses qui peuvent se comprendre aussi. Alors cette Traviata, elle va être très intéressante parce que autant il y a une Violetta qui est un peu connue, c'est Diana Damrau, qui vocalement ne devrait pas avoir de difficultés dans ce rôle. Mais par contre, ce qui va être encore plus intéressant, c'est le ténor péruvien Juan Diego Flores qui va affronter cette immense salle du Metropolitan avec la voix qu'il a, et on ne peut pas dire c'est pas Kaufmann, c'est pas bon, voilà, et dans le rôle d'Alfredo. Alors ça, franchement, je suis très très impatient de l'entendre dans ce rôle-là, qui est quand même, on est loin de la fille du régiment ou de certains Rossini, hein, dont il s'est fait une spécialité. Là, il entre quand même de plein pied et dans une salle très exigeante, au point de vue volume, projection. Ben voilà, mais ça, c'est franchement aussi un grand rendez-vous. Ensuite, encore une œuvre qui n'est pas très connue, c'est Adrienne le Couvreur de Francesco Scilea, et dont on le sait, c'est l'histoire véridique d'une tragédienne du français du XVIIIe siècle qui a eu le malheur d'avoir le même amant qu'une certaine princesse de Bouillon qui n'a pas hésité donc à lui envoyer un bouquet empoisonné. Et cette pauvre tragédienne l'a présenté sous son nez pour sentir toutes les odeurs, évidemment. Ensuite, le poison a fait son effet. Et dans cette distribution, alors on a un trio absolument somptueux. À nouveau, Annette Repko, si elle est là. Le ténor polonais Piotr Beczala, c'est lui qui fait Maurice de Saxe, qui vient nous enchanter dans Louisa Miller, mais vraiment nous enchanter. Et ensuite, dans La Princesse de Bouillon, Anita Rachelili, décidément, qui a pris ses quartiers au Métropolitain, et on ne saurait trop s'en féliciter. Alors, la production, alors celle-là, elle tourne aussi. Elle a été inaugurée au Garden de Londres il y a quelques années avec Mademoiselle Gorgiou, et elle est signée Sir David Malpicard. Alors là, on est exactement à l'époque de la création, donc tout va bien, tout le monde peut regarder ce genre de spectacle. On suit avec la Carmen de Bizet, je ne présente pas l'œuvre évidemment. Alors là, pour les Toulousains, surprise, on retrouve la dernière Carmen du Capitole, Clémentine Margen, qui voilà, va être la Carmen du Metropolitan Opera. Très clairement, les auditeurs m'ont entendu sur cette, et nous ont entendu d'ailleurs, Anne-Marie et Serge autour de cette table. On a quand même fait pas mal de réserves sur sa prestation toulousaine. Et bien maintenant, nous allons voir si, avec un autre chef d'orchestre, si, avec un autre metteur en scène, elle nous propose autre chose. Et bien, évidemment, j'en serais très curieux. À ses côtés, il y a Roberto Alagna, donc ça c'est très bien. On connaît son Don José, c'est parfait. Il y a Madame Alagna qui chante Michaela, et c'est Alexander Vinogradov qui fait Escamillo, donc tout va bien. Ensuite, la fille du régiment, Laurent Pellier également, avec Javier Camarena pour nous chanter Tonio, ses fameux neuf contrutes, etc. Tout le monde connaît l'œuvre, et c'est Pretty Yende, ce magnifique Pretty Yende, soprano sud-africaine, qui lui donnera la réplique.
Et on retrouvera Stéphanie Blight aussi.
Et on retrouve Stéphanie Blight dans un rôle un peu moins exposé que dans Cendrillon. Ensuite, il y a une reprise de La Valkyrie de Richard Wagner, et je me souviens, Serge, je ne sais pas si tu te souviens, nous étions allés tous les deux voir la création de cette Valkyrie au cinéma, hein, à la Bège. À cette époque-là, c'était Jonas Kaufmann.
Exact.
Qui chantait Siegmund.
Grand Siegmund.
Et je me souviens, tu avais dit, je crois que je n'ai jamais entendu un Siegmund pareil.
Ah oui, absolument. Absolument, ça c'est stupéfiant.
Voilà. Dirigé par Philippe Jordan, donc.
Voilà, alors ça c'était un souvenir. Malheureusement, ce n'est plus lui, mais c'est toute une nouvelle génération qui arrive sur scène au Métropolitain. C'est toujours la production du Canadien Robert Lepage, qui est la fameuse machine, un truc absolument incroyable, qui a failli faire s'écrouler la scène du Métropolitain. Et d'ailleurs, ils ont été obligés de la renforcer. Donc, ça sera dirigé par Philippe Jordan, avec Christine Görke dans Brunhilde, qui est considérée comme la meilleure titulaire du rôle aujourd'hui, et avec une distribution avec le ténor Stuart Skelton, etc., etc. Ensuite, il y a un spectacle peut-être difficile à vendre, mais qui est ce qui est peut-être le chef-d'œuvre de l'art lyrique français, qui est Dialogue des Carmélites, Francis Poulenc. Mais il faut à tout prix que le public se précipite à ce Dialogue des Carmélites, parce que d'abord la distribution est magnifique, c'est dirigé par Yannick Nézet-Seguin, et la mise en scène de John Dexter est parfaitement lisible, très émouvante, très forte, très impressionnante et imprégnée. Et voilà comment se terminera cette saison. Alors sur une note un peu sombre, effectivement, Dialogue des Carmélites, on sait comment ça se termine, mais c'est un très très grand rendez-vous qui est donné au public.
Merci beaucoup Robert, et vous pouvez donc consulter dans le détail cette prochaine saison de retransmission d'opéra en direct du Met sur le site des Cinémas Gaumont, www.cinemagaumontpathé.com. On en vient maintenant au prochain concert de l'Orchestre National du Capitole, à commencer par celui qu'il donne ce samedi 5 mai à 20h à la Halle au Grain. L'ensemble symphonique toulousain va être dirigé par Bruno Mantovani, un chef et un compositeur d'ailleurs, régulièrement invité. Autre invité de marque à se produire ce soir-là aux côtés de nos musiciens du Capitole, le pianiste Roger Muraro. Là encore, comme récemment au Clé de Saint-Pierre, un programme entièrement français et très 20e siècle où l'on trouve de nouveau le cher Maurice Ravel, mais aux côtés de compositeurs qu'on est moins habitué à entendre en concert. Serge Chosy, est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Ah ben oui, c'est vraiment une manière de présenter en concert les avant-gardes du XXe siècle, en quelque sorte. Alors Bruno Mantovani, qui est également directeur du Conservatoire National Supérieur de Paris, tout de même, qui a donc trois casquettes, hein, et vraiment qui l'occupe avec une aisance incroyable. Donc Bruno Mantovani a conçu ce concert à partir de la première œuvre qui sera la version orchestrale des quatre notations de Pierre Boulez. Pierre Boulez était un immense chef d'orchestre, outre qu'un compositeur avant-garde bien connu, et il adorait diriger aussi bien Maurice Ravel qu'Edgar Varèse, qui figurent au programme de ce concert. Donc Pierre Boulez est mort en 2016, Bruno Mantovani l'a bien connu, ils ont beaucoup échangé, ils s'estimaient beaucoup l'un l'autre, et donc il a voulu dans ce programme faire cohabiter ces trois compositeurs, alors les quatre notations orchestrées, alors qu'à l'origine les notations sont au nombre de 12 et c'était une œuvre pour piano, et Boulez lui-même...
Oui, qui remonte à 45.
Ancienne, et qui ont été ensuite orchestrées par Boulez lui-même.
En 80, beaucoup plus tard.
Beaucoup plus tard, mais Boulez est familier de ce genre
d'action. De reprendre,
les œuvres en progrès, les œuvres qu'il reprend toujours, jusqu'à la fin de sa vie, il a modifié ses œuvres.
Donc il a numéroté de 1 à 4.
Oui, de 1 à 4, notation de 1 à 4, sont les 4 seules notations qu'il a orchestrées. Et donc, c'est pour très grand orchestre, hein, donc ça va être assez spectaculaire. Ensuite, nous aurons le concerto pour la main gauche de Ravel, sa œuvre plus connue de nos spectateurs toulousains, qui a été souvent donnée ici, et là, par Roger Muraro, qui est vraiment... un très grand spécialiste à la fois de Ravel et de Messiaen. N'oublions pas qu'il a vraiment beaucoup travaillé avec Messiaen et que c'est un grand interprète de cette musique-là. Alors ce concerto pour la main gauche, on rappelle qu'il était écrit par Ravel pour Paul Wittgenstein, qui avait perdu son bras droit à la guerre.
Première guerre mondiale, oui.
Première guerre mondiale, donc voilà la raison pour laquelle...
Mais œuvre très virtuose quand même.
Très virtuose, qui donne l'impression d'une polyphonie au piano incroyable. On a l'impression que le pianiste a quatre mains, alors qu'il n'en a qu'une, hein, là, c'est vraiment spectaculaire. Et puis, en troisième partie, en deuxième partie du concert, après l'entracte, nous entendrons Amérique d'Edgar Varèse. Alors, Edgar Varèse, c'est un compositeur dont on ne sait plus s'il est français ou américain, mais en fait, il est français.
Il est français, à Paris.
Il est né en France, et puis s'est exilé aux États-Unis. Et lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, il a fait toute sa carrière là-bas, il a été tellement impressionné par le pays, l'agitation, la grandeur, qu'il a composé cette immense pièce d'une cinquantaine de minutes qui s'appelle Amérique. Alors, la grande version demande 150 musiciens, mais elle est rarement donnée. Et là, nous aurons la version réduite. Il n'y aura que 130 musiciens.
Oh. Petit joueur.
N'est-ce pas? 130 musiciens, dont une quinzaine de percussionnistes. Et parmi les percussions, il y a cette fameuse sirène d'usine qu'on entend à plusieurs reprises, qui fait un effet extraordinaire. Donc ça va être très spectaculaire que d'écouter cette...
Est rare.
Et rarissime, oui. Il paraît qu'elle a été donnée il y a quelques années à Toulouse, déjà. Mais il faut un orchestre de 130 musiciens, au bas mot, que nous aurons ce samedi soir.
Donc il y aura quelques supplémentaires, parce que l'orchestre du Capitole, c'est 125.
Musiciens. 125, donc effectivement, donc il y a beaucoup de supplémentaires qui viendront alimenter la cohorte musicale
de l'orchestre.
Donc c'est vraiment un concert où il faut se précipiter, parce que ce sont des œuvres rares à part le concerto de Ravel, le concerto pour la main gauche, mais les notations de Boulez et Amérique de Varèse, on n'entend pas tous les jours, hein.
Anne-Marie, je crois que vous avez eu Bruno Mantovani, vous l'avez interviewé.
Oui, il m'a dit ce que dit Serge, et surtout, il m'a parlé justement de l'écoute de ses œuvres. On dit parfois que la musique contemporaine est assez sèche, très peu, disons, sensible pour un grand public, et il précise que justement, pour le grand public, ses œuvres sont très spectaculaires de toute façon, c'est un immense orchestre, en même temps, c'est plein de tas de choses, de rutilances, de sons, donc c'est quelque chose qui peut s'écouter sans préparation, sans dire, je vais me prendre la tête, à bûcher, Amérique, mais aussi les notations, c'est destiné à un très large public, donc 130 musiciens en plus en scène, ça fait quand même une force musicale qui doit s'écouter en même temps aussi, en se disant cet orchestre est magnifique parce qu'il faut aussi le jouer, parce que je crois que c'est assez difficile pour les musiciens. Que donc c'est une belle démonstration d'orchestre et des œuvres, je pense, à découvrir pour beaucoup de gens.
Oui. J'ai eu le privilège d'assister à quelques répétitions, c'est spectaculaire et c'est difficile. Mais les musiciens sont ravis de jouer des œuvres comme ça. Hein. Pour eux, c'est un renouvellement de répertoire. Et puis, il faut préciser que vers la fin de la saison, il y aura la création d'une commande de Mantovani. De l'orchestre du Capitole, oui. Et de la Philharmonie de Paris, une double commande d'une œuvre qui va être donc créée à la fois à Toulouse et à la Philharmonie, et qui est une œuvre avec clarinette solo, et la clarinette solo, ce sera celle de David Minetti, dont Mantovani a dit tout le bien qu'il pouvait penser. Il a été tellement impressionné par sa sonorité, son sens du phrasé, sa musicalité, qu'il a tout de suite eu envie d'écrire une œuvre avec clarinette solo et David Minetti. Donc, c'est un grand privilège.
Et un rendez-vous à ne pas rater non plus.
Non.
Alors, pour donner une idée à nos auditeurs, pour ceux qui ne connaissent pas, on va écouter un extrait des notations pour orchestre de Pierre Boulez. C'est le début, la notation, la première notation, Pierre Boulez. Première des quatre notations pour orchestre de Pierre Boulez, une des trois œuvres au programme du concert que donnent l'Orchestre National du Capitole et le pianiste Roger Mouraro sous la direction de Bruno Mantovani ce samedi 5 mai à 20h à la Lograin. Sont joués également le concerto pour la main gauche de Maurice Ravel et Amérique pour orchestre d'Edgar Varèse. Dès le samedi suivant, le 12 mai, toujours à 20h, l'Orchestre National du Capitole revient à la Lograin pour un autre concert avec Clément Schulte, le jeune chef allemand, pour une première à la direction et Baeba Skryde, la violoniste lettonne qui va jouer le concerto pour violon numéro 2 de Prokofiev. Au programme, on trouve aussi l'ouverture de Manfred de Robert Schumann et la troisième symphonie, l'héroïque de Beethoven. Serge, un mot aussi sur ce programme et sur Baeba Skryde et Clément Schulte. Est-ce que ce sont deux nouveaux visages aux côtés de l'Orchestre National du Capitole? Je ne crois pas en ce qui concerne la violoniste.
Non, pour Clément Schulte, apparemment, oui, c'est sa première apparition à Toulouse. Donc, c'est un jeune chef allemand qui a été violoniste de l'Orchestre de Cologne et de la Deutsche Kammerphilharmonie de Brême, qui est titulaire d'un grand prix international qui le donne à Tel Aviv en 2010. Par contre, Baeba Skryde, elle est déjà venue en 2015, elle avait interprété de manière magistrale le concerto pour violon de Sibelius, et donc elle revient, elle est née en 1981, donc c'est une jeune...
Ils ont à peu près le même âge tous les deux, je crois.
Oui, à peu près, exactement. Et donc elle vient jouer le deuxième concerto, le second, puisqu'il n'en a écrit que deux, pour violon de Prokofiev, composé en 1935, soit près de 20 ans après le premier concerto, et c'était au moment où il envisageait son retour en Union soviétique qu'il avait fui au moment de la révolution de 1917. Et donc ça a été créé à Madrid et c'était créé par un violoniste belge, Robert Sutsens. Et puis alors pour la symphonie héroïque, bon, elle est bien connue. C'est vraiment la première grande symphonie révolutionnaire de Beethoven, celle qui donne un point de départ à un nouveau style de musique. Le romantisme, on peut dire que le romantisme est presque né avec la symphonie héroïque, dont il faut rappeler qu'elle s'appelle héroïque parce que initialement il avait prévu de la dédier à Napoléon Bonaparte. À la gloire de Bonaparte. D'abord, qui est premier consul, qu'il considérait comme l'héritier des valeurs de la Révolution française. Et lorsqu'il a appris que Bonaparte était devenu Napoléon Ier, il a déchiré la dédicace avec rage. Il existe sur Internet, on peut les trouver, la première page de la partition qu'on voit qu'il rayait, mais avec rage, et qu'il a dédié à la mémoire d'un grand homme.
Oui. Là, on peut
sans préciser
qui est le grand homme,
voilà, ou qui fut un grand homme.
Oui, pour le traduire comme ça.
Donc voilà, c'est cette symphonie qui conclura ce concert en trois étapes.
On va écouter un petit extrait du concerto pour violon numéro 2 de Serge Prokofiev, joué par Baïbas Kraïde. C'est le tout début. Le début du concerto pour violon numéro 2 de Serge Prokofiev, interprété par Baïbas Kraïde. La violoniste lettonne va le jouer également samedi 12 mai à 20h à la Halle aux Grains avec l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Clemens Schulte. L'Orchestre Toulousain donnera le même soir l'ouverture de Manfred de Robert Schumann et la troisième symphonie, l'Héroïque de Beethoven. Eh bien, nous arrivons au terme de cette émission. Merci encore à tous les trois d'y avoir participé, de l'avoir animé avec moi. Pour ceux qui voudraient consulter le programme de la prochaine saison d'Opéra retransmis en direct du Met dans les cinémas Gaumont-Labège et Toulouse-Wilson, peut-être s'abonner d'ores et déjà aux futures projections, je les invite à se connecter au site www.cinemagaumontpathé.com. Je rappelle que les prochains concerts de l'Orchestre National du Capitole ont lieu ce samedi 5 mai à 20h avec le pianiste Roger Muraro, et le samedi 12 mai à 20h également, et chaque fois à la Halle aux Grains avec donc Baïbas Kraïde et Clemens Schulte à la direction. Vous pouvez vous renseigner sur les programmes et réserver vos places sur le site de l'orchestre www.onct.toulouse.fr. En ce qui concerne un concert lecture de François-René Duchâble et Anna Carré à l'église Notre-Dame du Camp de Pamiers. Mardi 15 mai à 20h45, c'est le concert d'ouverture du festival Musique au Pays de Gabriel Fauré. Vous pouvez vous renseigner et réserver sur le site de l'Office de Tourisme de Pamiers, www.ot-pamiers.fr. Je signale aussi les concerts de l'Orchestre de Chambre de Toulouse avec la violoniste Clara Tchernat pour un programme centré autour de l'œuvre de Mendelssohn à Saint-Pierre-des-Cuisines les lundis 14 et mardi 15 mai à 20h30. Pour vous informer et faire vos réservations, il y a le site de l'orchestre www.orchestredechambredetoulouse.fr. Et enfin, notez le concert que donne le pianiste Philippe Cassard dans le cadre de la Saison Bleue, mardi 15 mai à 18h15 et à 21h à la Chapelle des Carmélites. Il est intitulé « Les exercices d'admiration de Franz Liszt » et vous pouvez vous renseigner et réserver sur le site www.lasaisonbleue.toulouse.fr. Tous mes remerciements à Christophe Aubry pour avoir assuré la régie technique de cette émission, une émission disponible et réécoutable en podcast dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente semaine musicale.